Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui vous aide à devenir meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web. Et bonjour à vous qui nous écoutez en podcast en dehors de France. L'heure à venir va nous permettre de parler d'immobilier. Nous allons parler d'un monde où le flex office fait rage, où le télétravail s'est imposé plusieurs jours par semaine. Et cette question, est-ce que les équipes ont encore besoin de se retrouver ? On va parler séminaire d'entreprise avec Marie Cœur de Roy et notre invitée. On va se demander si la Chine est en train de se japoniser. Qu'est-ce que ça veut dire, se japoniser? On vous emmènera dans le Japon des années 90. On filera le parallèle, on verra les limites peut-être de ce parallèle. Et puis on parlera de la Chine. Est-ce qu'elle a touché le fond avec l'indice MSCI China qui est retourné sur ses niveaux d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, on investira thématiquement dans les voitures. C'est un sujet qui m'est cher, mais qui vous plaît aussi. Nous allons parler de deux chevaux. On va parler de mini, autant de modèles populaires qui peuvent devenir des pièces d'exception, des pièces d'investissement, de collection. Mais on parlera aussi de Porsche, notamment de la Porsche 356 C Carrera avec la maison Agut. Elle date de 1963. Je vois Antoine qui est tout feu tout flamme d'entendre parler de Porsche parce que lui aussi il s'intéresse aux voitures. Au programme, il y a vous, chers auditeurs, auditrices, vous êtes connectés et très nombreux à nous écrire. Merci pour votre soutien et de participer à la discussion. Vous continuez direct à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn. Je vous lis, même si vous m'écoutez, nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à réagir et à nous donner des idées de sujets ou à réagir sur le contenu de l'antenne. On part à Euronext. Rejoins Antoine. Antoine, qu'on retrouve à Euronext sur fond de CAC 40 qui a l'air à 11h07 de limiter la casse. La situation semble plutôt stabilisée du côté du CAC.
Ouais, même si on reste en baisse marquée sous les 8000 points, mais on semble s'être trouvé des supports du côté d'une zone du côté des 7920 points. On était à 7953 et depuis on a réduit les pertes. On ne perd plus qu'1,14%. Du côté des autres indices européens, on a du moins 1,3% pour le DAX à Francfort, l'Eurostoxx 50 moins 1,2%, mais le signe de tension persiste, hein, bien évidemment, avec un indice VIX américain, bon, qui passe légèrement sous les 19 points. Enfin, on en reste quand même pas loin. Niveau de tension relativement élevé. Et au milieu de tout ça, on a en plus les chiffres de la croissance chinoise qui semblent peser sur l'ensemble du compartiment industriel. Alors, la plus forte baisse du CAC 40, c'est ArcelorMittal qui en plus subit un abaissement de recommandation de Deutsche Bank. Le titre perd 5,9% à 24,02€, mais on a l'ensemble du secteur automobile qui est en baisse aussi, marqué Stellantis moins 2,9, on est à 24,26, Renault moins 2,47 à 48,88€, univers d'auto élevé aussi, ça on va en reparler dans quelques secondes, mais c'est pas très bon pour les valeurs de croissance et en particulier pour les semi-conducteurs. Dans la high-tech, on a STMicro qui recule de 2,5% à 37,87€. Parmi les titres qui résistent mieux, Téléperformance, hein, qui est bien orienté depuis le début de la séance, plus 0,2 à 88,34€. Engie aussi, plus 0,13 à 15,76€. L'Oréal, plus 0,07, 415,75€. Et la plus forte hausse du SBF 120, elle est pour SES, l'opérateur satellite, qui gagne 2,4% à 5,62€. Le CAC, moins 1,7. 7951 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on rebondit un petit peu, mais enfin, on a pas mal testé la zone d'un 0,6 à 1,0628, très exactement, Lorraine.
Merci Antoine, c'est l'heure de votre histoire, on va parler de taux.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Oui, un mot du marché des taux, du marché de taux, parce que clairement, c'est là où tout se passe et la tension reste très forte. Expliquez-nous, Antoine.
Oui, notamment du côté des États-Unis, car une cote d'alerte commence à se matérialiser, les 5% sur le rendement de la dette américaine. Deux ans, on est à 4,94 en ce moment. Le taux à deux ans, c'est quand même celui qui personnifie le plus les dynamiques d'intervention des grandes banques centrales. Et là, pour le coup, il s'agit de la Fed. Donc, ce taux-là est très, très nettement remonté ces derniers jours. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un phénomène de repli sur le marché obligataire pour cause de fortes hausses de la prime de risque géopolitique. Ça, on en parle, ok. Hausse du pétrole aussi, qui est toujours autour des 90 dollars. Il n'y a pas de débordement pour le moment, mais enfin, les dynamiques restent quand même franchement haussières. Et tant que cette tension persiste sur les marchés, on a des perspectives d'inflation induite qui augmentent sensiblement à nouveau. Et avec, en plus, une réserve fédérale américaine qui, depuis une dizaine de jours, est en train de doucement préparer les esprits à un délai avant une première baisse de taux. Alors, tout ça crée un vrai gros climat de tension et provoque cette correction très sensible sur le marché actions, parce que 5% sur les taux 2 ans, si on regarde ce qui s'est passé dans un passé relativement récent, c'est le niveau qu'il y a eu pendant la crise des banques régionales américaines. Vous vous souvenez, avec la faillite de Silicon Valley Bank, c'était il y a un peu plus d'un an. C'est aussi le niveau qu'avait atteint le taux 2 ans britannique pendant la crise des fonds de pension en septembre 2022. Vous vous souvenez, il y a eu une intervention d'État, on a dû renflouer des caisses et on sentait vraiment le Royaume-Uni au bord de la crise avec cette histoire. Et c'est aussi le taux qu'avait atteint le 2 ans italien lors de la crise de 2011-2012. Ça remonte à la crise des dettes souveraines en zone euro. Donc, ces 5% sur du rendement de 2 ans, c'est de la dynamite potentielle. C'est plus qu'une cote d'alerte, c'est un mouvement de défiance, il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, hier, si on regarde bien les échéances plus longues, les taux de 10 ans, ceux qu'on regarde d'habitude. Oui. Du côté européen, c'était plutôt calme. Et ça s'est nettement tendu dans le sillage de l'Amérique, parce que maintenant, on a largement passé le cap des 4,5%, on est du côté des 4,60. Mais regardez, la dette française 10 ans, elle revient doucement du côté des 3%. Donc là, on a plusieurs signaux très préoccupants qui risquent de perdurer pendant encore un bon moment et qu'il va falloir surveiller de près, d'autant que ça a un effet sur la rémunération des monnaies. On voit que le dollar flambe sur ces nouvelles, pose problème aux monnaies émergentes et en particulier won sud-coréen et le yen japonais, donc que ça provoque des problèmes du côté des marchés émergents. On a un enchaînement de soucis qui pourrait bien nous poser problème sur les prochaines semaines.
Oui, et puis à l'avenir, on voit pas bien ce qui pourrait venir entraver la force du dollar, parce que les taux d'intérêt pourraient rester élevés plus longtemps. C'est ce qu'a dit la patronne de la Fed de San Francisco hier. Elle a réitéré qu'il n'y avait aucune urgence à ajuster les taux d'intérêt. Donc on en est là. Merci Antoine pour ce décryptage histoire financière à retrouver sur notre site web et application BFM Business. D'ici quelques minutes, le point sur les taux, vous le voyez, les taux, la tension reste forte, c'est là où tout se passe. Nous avons fait le point sur l'actu, nous avons fait le point sur les marchés. Maintenant, il est temps de parler immobilier dans Tout pour investir. Marie Cœur de Roy nous a rejoint.
Tout pour investir, la place de l'immo.
C'est l'heure de l'immobilier avec Marie Cœur de Roy. Bonjour chère Marie.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Nous lançons une saison avec vous aujourd'hui. La saison des séminaires d'entreprise, car oui, il y a une saisonnalité.
Exactement, et donc on s'adresse à tous nos dirigeants à BFM. Si vous voulez nous lancer sur un séminaire d'entreprise, on a vraiment l'interlocutrice, Sophie Desmazières, cofondatrice d'Omani. D'abord, on va rappeler ce que c'est qu'Omani.
Oui, bonjour. Donc, on a fondé Omani il y a 3 ans. Omani, c'est la collection des plus belles maisons à louer en France. Ce sont des grandes maisons. Ce sont des grandes maisons qui viennent avec du service. Et nos clients, nous avons plusieurs types de clients. 40% de notre activité, ce sont des séminaires d'entreprise, puisque nous privatisons nos maisons en Ile-de-France, dans le sud de la France, et aussi quelques-unes en Espagne, pour des séminaires sur mesure, pour des groupes jusqu'à 30 à 40 personnes, puisque le choix d'Omani, c'est de rassembler des maisons de grande taille qui peuvent accueillir des groupes et qui ont entre les plus petites vont avoir 6 à 7 chambres, jusqu'à dans certains cas des hameaux de maisons où nous avons 25 chambres.
Mais Sophie, ce qui est assez chouette, c'est quand vous avez créé cette boîte, vous avez d'abord pensé aux touristes un peu haut de gamme.
Ouais.
Et c'est après qu'est venue finalement cette demande des entreprises. Et pourtant, ça fait quoi, 2021, c'est ça la création d'Omani?
Oui, exactement. Vous avez raison. Vous avez
très vite,
raison.
C'est venu en fait, comme ça, les entreprises et les séminaires.
Voilà, on s'est dit qu'il manquait en France une marque qui rassemble toutes les plus belles maisons à louer. Il y a plein de plateformes, il y a plein de... Mais d'être capable de faire la part des choses et de n'avoir que de l'exceptionnel. C'était ce que nous voulions faire avec Omani. Et vous avez plusieurs types de clients. Et au début, on s'est dit, on va surtout avoir des clients étrangers qui vont louer ces très belles maisons qui viennent avec du service. Et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait une demande donc des entreprises. Et vous le rappeliez tout à l'heure, il y avait vraiment une saison du séminaire d'entreprise, plutôt avril, mai, juin. Et ça recommence septembre, octobre. Et c'est un grand intérêt pour le propriétaire parce que ça lui permet de remplir ce qu'on appelle les ailes de saison, puisque ces maisons-là sont très occupées par
l'été,
par des touristes, dans notre cas souvent américains, et l'hiver, les entreprises. Et la particularité d'Omani, c'est que, d'abord, on adore les séminaires d'entreprise, et on est très convaincus. On a fait donc cet observatoire aujourd'hui, on a interrogé 500 salariés pour comprendre en fait l'intérêt et l'utilité des séminaires d'entreprise. Et la formule que nous avons créée, c'est-à-dire des séminaires très intimistes dans ces maisons privatisées, elle est vraiment forte et elle apporte à ceux qui y participent une expérience qui est assez mémorable, puisqu'ils ont la possibilité de rentrer dans des maisons que souvent ils ne pourraient jamais s'offrir.
Bien sûr.
Avec un programme qu'on essaie de faire sur mesure, puisqu'on crée des activités et puis
des services.
Mais Sophie, qu'on comprenne bien votre business model. En fait, vous louez des maisons qui sont par ailleurs des maisons occupées par leurs propriétaires ou qui font ce qu'ils veulent avec leur maison en dehors des moments où ils vous la louent, et vous apportez un service autour. Quelle est la nature de ce service? C'est de l'événementiel, c'est de la restauration, c'est la conciergerie. Qu'est-ce que vous apportez autour?
Ce que nous apportons pour les séminaires, c'est une formule totalement clé en main. Nous proposons les plus beaux lieux et nous avons choisi ces plus beaux lieux.
Exemple de lieu.
Sur place, exemple de lieu, donc en Île-de-France, nous avons quelques très très beaux châteaux dans l'Essonne. Nous avons sur le bord de la mer, sur le site Omani, vous verrez tout ça. En bord de mer, on a des maisons qui accueillent jusqu'à, je vous disais, 45 personnes. On a des domaines privés en Drôme Provençal, par exemple. Ce sont à chaque fois des lieux qui combinent la capacité d'accueil, une capacité d'accueil importante, et qui combinent la possibilité sur place de faire plein de choses. Donc on les a choisi pour ça, et notre métier à nous, c'est une prestation complète, c'est-à-dire...
Vous avez un chef, par exemple ?
On a systématiquement, donc on propose les plus beaux lieux, faciles d'accès, super important maintenant. On n'a plus envie, quand on fait du séminaire...
Alors, je ne sais pas quelle est votre définition de facile d'accès, parce que la Drôme Provençale, c'est tout, n'est pas collé à Valence ou à Avignon, quand même.
Mais c'est, je vous rappelle que Valence TGV, c'est 2 heures de train.
C'est vrai, de Paris.
C'est très rapide. Donc on est très sensible au fait qu'on puisse venir en train. On est très sensible au fait que ce soit facile d'accès à Paris. Autrefois, vous savez, on allait très souvent à l'étranger. On allait au Maroc, etc. Avec cette nouvelle vague, et on est tous conscients de ça, on essaie de réduire en fait notre empreinte carbone et réduire ces temps de transport. On est très sensible au fait que nos lieux soient faciles d'accès. Nous avons beaucoup de lieux près de Marseille, en fait. Marseille, 3 heures de train, formidable. À Cassis, on a un lieu magnifique. Donc on choisit des lieux exceptionnels. Nous avons une collection qui est serrée, mais ce sont des lieux qui sont parfaitement organisés pour faire un séminaire sur mesure et intime, puisque nous avons systématiquement un chef au service du groupe, des groupes jusqu'à 30.
C'est bon, moi je suis convaincue.
Voilà, on essaie de faire en sorte que sur place, il y ait des activités. On n'a pas besoin de se déplacer. Ça, c'est très important. Encore une fois, c'est nos engagements RSE.
Tout est là sur place.
Mais c'est un des piliers de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir du tout en main sur place. Donc, par exemple, dans la Drôme, on va aller chasser la truffe, on va aller faire des randos, on va faire le cours de pilates sur place qui vient dans la maison.
Vous avez perdu.
On va faire des ateliers de cuisine. Donc, on a créé à chaque fois des écosystèmes et on organise tout. C'est-à-dire que pour l'entreprise, on fait tout.
Alors, on en revient quelque part à la question à la base de tout ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'un séminaire d'entreprise? En fait, pourquoi on irait se mettre dans une maison isolée mais connectée, vous nous l'avez souligné, chère Sophie, entre collègues, pourquoi 1-2 jours? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces séminaires et qu'est-ce que vous, au fil des années, vous avez observé comme activité qui fait que si on fait l'effort et si on paye pour un séminaire d'entreprise, derrière, en tant que manager, en tant qu'entreprise, on s'y retrouve.
Le séminaire d'entreprise, c'est un outil de management qui est très puissant, puisque le séminaire d'entreprise, et c'est ce que dit notre observatoire, et nous on l'observe tous les jours, ça permet de créer la cohésion d'équipe. Cette cohésion d'équipe et de créer ensemble une histoire commune. Ces équipes, on peut le rappeler, qui avec le télétravail, et dans certains cas, nous avons des entreprises dont les salariés ne se voient plus, et nous avons des entreprises qui, chez Omani, font des séminaires tous les 3 mois. Parce que...
Marie, vous voulez partir chercher la... Ah franchement, évidemment, moi, avec un chef, dans des lieux prestigieux.
Et clairement, il y a un, la cohésion d'équipe, énorme. Il y a un.
On peut ramener les enfants, Sophie, ou pas du
coup. Ah non.
Il y a la pause dans un temps professionnel où on est tous focussés sur ces sujets. Là, ensemble, il n'y a pas un séminaire où il n'y a pas une décision stratégique forte. Moi, chef d'entreprise, j'ai souvent été à un moment dubitatif en me disant oh, mais les séminaires d'entreprise, c'est de l'enfantillage, c'est du gadget. Je peux vous assurer que ces séminaires d'entreprise sont fondateurs, sont essentiels. Et d'en faire un, deux par an, c'est nécessaire au fonctionnement des entreprises à succès. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que l'intelligence collective dans les boîtes, c'est essentiel. L'intelligence collective, c'est bien travailler ensemble, c'est bien communiquer. Et le séminaire d'entreprise est d'autant plus important aujourd'hui par rapport à il y a quelques années. Et il y a un chiffre que je peux vous donner qui m'a scotché, que je ne connaissais pas. Il y a un observatoire qui a été fait il y a peu de temps sur les dépenses des entreprises dans les événements, donc c'est-à-dire les soirées d'entreprise, les journées d'études et ce qu'on appelle les séminaires résidentiels. De ces trois type d'événement, il n'y en a qu'un qui est en croissance forte, c'est le séminaire résidentiel.
Mais justement, Sophie,
plus 30% depuis 3 ans.
C'est justement la question que j'ai... Enfin, on en a parlé un peu hors antenne, mais est-ce que vraiment... Je comprends bien l'opportunité à l'heure du télétravail, de la réduction de la surface des bureaux. Vous vous y connaissez en bureau, Sophie, je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs depuis un paquet d'années qui nous regardent, vous veniez au titre de bureaux locaux que vous aviez créé. Du coup, moi, ma question, c'est... J'entends bien l'opportunité pour les boîtes de créer et de participer sur ces séminaires d'entreprise, etc. Mais est-ce que financièrement, malgré le fait que ça puisse effectivement donner lieu à des décisions stratégiques, est-ce que vous avez tant de boîtes que ça, tant d'entreprises que ça qui, aujourd'hui... On n'est peut-être pas dans la meilleure des périodes pour elles, ont envie de faire ça. Est-ce que ce n'est pas réservé qu'à une catégorie d'entreprises ?
Alors, c'est une question intéressante et moi, je peux vous répondre. Omani, qui sont les clients d'Omani ? Omani, encore une fois, ce sont des séminaires très qualitatifs. Donc, certains nous disent, mais Omani, c'est que des boîtes du CAC 40. Eh bien, je vous réponds que non. Les boîtes du CAC 40, c'est une toute petite portion des clients d'Omani. On en a, bien sûr. Mais nous avons énormément de boîtes qui sont très impliquées dans le bien-être de leurs salariés. Et aujourd'hui, qui sont très impliqués dans ce travail collectif. Donc, beaucoup de start-up, des start-up en croissance, des boîtes, bien sûr, qui gagnent leur vie. Je ne veux pas vous dire qu'une boîte qui n'est pas rentable va s'offrir des séminaires. Également parce que cette nouvelle organisation du travail a réorganisé le fonctionnement des bureaux. C'est-à-dire que les bureaux, aujourd'hui, des entreprises, il y a de moins en moins la possibilité, et certaines jeunes boîtes ont même pris le parti d'avoir des bureaux. On ne peut plus venir ensemble en même temps. On ne peut plus. C'est simple. Donc, du coup, quand est-ce qu'on se voit tous ensemble ? Donc, ces séminaires d'entreprise sont devenus nécessaires plus que jamais. Et ils prennent, pour une part, et j'étais la première étonnée de la croissance de ce secteur, je le rappelle, 30% les séminaires résidentiels depuis quelques années, parce qu'en clair, il y a eu une diminution de l'investissement, et en particulier...
C'est-à-dire ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont économisé sur leur investissement immobilier, ils le dépensent ailleurs.
Vous savez, on donne le chiffre de à peu près moins 30% de la surface, c'est peut-être un peu moins que ça, mais c'est à peu près ça. Clairement, aujourd'hui, pour faire groupe, pour faire cohésion, pour faire l'histoire commune, bah, autrefois, je me voyais autour de la machine café, je discutais à la cantine, sauf que maintenant, il y a des collaborateurs que je ne vois plus. Donc, les séminaires d'entreprise servent à ça.
Sophie, vous nous parlez des boîtes qui gagnent leur vie. Alors, on comprend les entreprises qui ont un budget pour pouvoir faire ce genre d'événement. Marie, vous identifiez que peut-être c'est on a réduit son budget location, son budget bureau au sens le loyer qu'on paye ou l'emprunt que l'entreprise peut avoir à rembourser si elle est propriétaire de ses bureaux. Et ce budget excédentaire ou économisé, on va dire, on l'envoie vers de l'événementiel. Et finalement, pour les entreprises, financièrement, elle s'y retrouve. C'est pas une dépense en plus.
Non, je pense que l'allocation budgétaire, effectivement, s'est déplacée. Ce que je vous le disais, quand on regarde les événements d'entreprise, soirées, grandes soirées et journées d'études, ce sont deux postes qui ont baissé. Ce qui augmente, c'est le séminaire résidentiel. Et c'est le séminaire résidentiel en petite équipe. Ça, c'est vraiment important. C'est le petit groupe, donc 20 à 30 personnes, qui a besoin de se retrouver, travailler ensemble, hors les murs, pour être plus efficace demain.
Marie est aux manettes de l'organisation du prochain séminaire de BFM Business / Tout pour Investir. Vous nous emmenez avec Omani quelque part. Quel est le budget qu'on doit envisager ?
C'est la question, il ne faut pas me le poser à moi, parce que moi, je dépense toute la boîte. Moi, la boîte coule à cause de moi. Parce que alors là, on ne part pas deux jours, mais trois mois. Alors, vous avez vraiment envie de partir 3 mois en vacances avec vos collègues, pardon, au séminaire d'entreprise.
Non, c'est pas grave, j'irai seule.
Alors, le séminaire d'entreprise, évidemment, cela dépend de la distance, donc du lieu que vous allez vous offrir. Mais les lieux au Mani qui sont, encore une fois, très, très, très haut de gamme.
On a parlé de Château en Essonne, de Domaine en Drôme.
Voilà, vous allez dépenser entre 400 à 700 euros par personne et par jour. Mais cela va dépendre aussi de la taille de votre groupe. Si vous allez faire un séminaire à la montagne, ouais. On fait, nous, des séminaires à la montagne. Parfois, c'est un petit comité de direction, 10 personnes, un lieu très grand, très magnifique. Vous allez être dans le haut du panier ouais. De la tranche que je vous ai donnée. Mais 400 euros par jour par personne, un groupe de 15 à 20 personnes pendant 2 jours, c'est tout à fait abordable et en général inférieur au prix que les gens imaginent.
Juste un dernier mot, Sophie, sur un autre. Enfin voilà, il y a cette volonté effectivement de cohésion des équipes, mais il y a aussi quelque chose dont on parlait aussi hors antenne sur la conquête des talents, la rétention et la conquête des talents. C'est aussi devenu un argument. Je vous disais tout à l'heure, vous ne disiez pas complètement, mais quand même, est-ce qu'aujourd'hui le fait qu'il y ait moins de bureaux, finalement, on avait fait toute l'époque des je recite le baby-foot, hein, mais de mon bureau, il est super génial, on peut faire plein de trucs et tout. Bon, maintenant, on sait qu'on réduit les surfaces. Donc, est-ce que c'est pas le nouvel argument? C'est Ce séminaire-là, est-ce que je peux l'afficher presque sur mon offre d'emploi, en fait?
Je suis complètement d'accord. La reconnaissance employeur passe par, en particulier, ces moments rares, puisque le séminaire, il vaut mieux en faire un rare, avec des expériences mémorables, plutôt que faire 2-3 moments où vous vous retrouvez dans un cadre un peu moins agréable. Et les salariés sont très reconnaissants. C'est une marque de reconnaissance qui est très forte. Vous êtes invité dans une maison au Mani, vous dites « Waouh, je suis quelqu'un ». Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Et encore une fois, cette maison comme lieu de vie et lieu de séminaire, c'est tout autre chose qu'un hôtel. Parce que c'est rien que pour vous. C'est rien que pour l'équipe, c'est rien que pour l'entreprise. Et la privatisation du lieu fait beaucoup dans le succès de ce que nous vivons tous les jours.
Sophie-Marie, on va quand même conclure du point de vue des personnes à qui vous louez ces maisons. Ouais. Je suis propriétaire de cette magnifique villa, probablement quoi, en Drôme provençal derrière nous, avec cette piscine non chauffée parce qu'il fait tout le temps chaud et cet éclairage magnifique de la lumière du soleil. Quel est mon incentive, quelle est ma motivation pour aller vous confier les clés de ma maison? Vous l'avez dit, sur les ailes de saison, donc en dehors des vacances scolaires et on va dire de la période estivale où j'aurais envie d'y aller. Quelle est la rentabilité et quels sont les risques?
Alors, le taux d'occupation, quand vous avez de l'immobilier, c'est un KPI essentiel. Donc, l'occupation d'une maison, la plupart des maisons que vous voyez appartiennent souvent à des entrepreneurs qui, à côté de leur activité, ont acheté ces maisons, mais ces maisons-là, elles sont opérées professionnellement. Donc, la motivation à les louer en séminaire, elle est très forte parce que ça remplit les ailes de saison et sinon, vous n'auriez pas de clients. Donc, quand vous avez un lieu à louer, c'est une chance folle de pouvoir faire des séminaires d'entreprise. Il y a des contraintes. Dans les contraintes, vous avez la capacité d'accueil. Et nous, on est très exigeants. J'en ai pas parlé chez Omani parce que souvent, quand je parle d'Omani, il faut que vous sachiez qu'on a énormément de propositions de maisons. Nous en prenons un nombre très, très, très réduit parce que notre cahier des charges est très contraint parce qu'on ne veut que des lieux exceptionnels, grande capacité d'accueil, des environnements exceptionnels et la possibilité d'avoir beaucoup d'espace pour rester sur place.
Et faire du séminaire, ça coûte plus cher que de louer à des touristes ou pas, du coup, pour les propriétaires?
Ou d'organiser des mariages.
Alors, parce que j'imagine que c'est un peu ça. Vous avez raison, faire du séminaire, ça rapporte moins. Ça rapporte moins que faire de la location saisonnière parce que y a plus de boulot, parce que c'est des temps plus courts, c'est très simple, c'est 2-3 jours. Alors que quand je loue 15 jours à une famille américaine, c'est moins de boulot. Sauf que la famille américaine, je ne vais pas la voir en février, en avril
ou en octobre. C'est ça, le sujet c'est le remplissage.
Le sujet c'est le remplissage et le sujet c'est la multiplicité des usages donc pour optimiser le taux d'occupation. Et l'entreprise, qui est formidable avec les entreprises, c'est que, en revanche, c'est une population très respectueuse. Vous n'avez pas... quand vous êtes dans un cadre professionnel, c'est très rare qu'il y ait des dommages. Parce que, les gens travaillent, etc. Ça peut arriver, bien sûr, quand une maison est louée, que des enfants fassent crayonnent sur...
C'est pour ça que je ne peux pas ramener mes enfants, c'est
voilà.
Ça, Sophie.
Donc, dans un cadre professionnel, il y a très rarement des dommages, parce qu'il y a un grand respect de la propriété. Mais on a besoin, pour ça, d'avoir des lieux qui ont des grandes capacités et on a, nous, assez souvent, des ensembles de maisons. Vous voyez, si on a 15 chambres, 15 à 20 chambres, c'est ce que nous cherchons.
Merci beaucoup Sophie Demazière, cofondatrice d'Omani. Merci Marie de nous avoir emmené un petit peu en dehors du cadre de nos bureaux.
C'était notre séminaire à nous, c'était bref mais intense.
Voilà, cette réflexion sur en fait voilà, le séminaire d'entreprise dans un monde où eh bien, le flex-office et où le télétravail du monde dans le tertiaire sont devenus la norme. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site web. Merci beaucoup pour cette aération. Nous allons vous emmener du côté de la Chine avec Gilles Echeribarri pour réfléchir eh bien, aux conséquences de la dégradation de la note la semaine passée et puis aussi les chiffres du PIB. Qu'est-ce qu'ils signifient pour nous investisseurs particulier du côté de la France. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir et mieux comprendre le marché chinois, nous allons décrypter les chiffres du PIB et les conséquences de la dégradation de la note de la Chine la semaine dernière par Fitch. Avec vous, Gilles Echeribarri, bonjour.
Bonjour Anne.
Gilles, vous êtes le directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Avec nous au décryptage, parce que ça nous concerne en tant qu'investisseurs particuliers, ce qui se passe en Chine. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus et qui nous écoutent et qui se disent « Oh là là, moi la Chine, je ne mettrai pas un euro dessus », parlez-nous un peu de pourquoi ça nous concerne.
Je dirais déjà en termes de poids, hein, je veux dire, il y a une émergence puisque la Chine c'est 20% du PIB mondial, hein, donc c'est un marché qui représente le quart des marchés émergents. Et si on ajoute la Corée et Taïwan qui sont autour, voilà, ce parti-là c'est une partie non négligeable des marchés émergents qui aujourd'hui pèsent pratiquement plus que le Japon et pratiquement autant que l'Europe.
Justement, cette part du PIB mondial, la Chine a publié ce matin son PIB en progression de presque de 5,3% au premier trimestre. Un signe encourageant quand on est décideur politique chinois. Quand on est les marchés et qu'on regarde ce chiffre, qu'est-ce qu'on se dit ?
C'est un chiffre qui est, je veux dire, c'était le minimum syndical. Puisque c'était ce qui avait été annoncé, donc en Chine, généralement, ce qui est annoncé est plus ou moins respecté. Après, le chiffre n'est pas de très bonne qualité, puisqu'on avait un rebond assez significatif en janvier-février. Et là, on voit un essoufflement et la production industrielle et la consommation, ce qui n'est pas un très bon signe pour la suite des événements. La Chine devrait faire 5%, mais comme je dis, c'est le minimum syndical et beaucoup, à base beaucoup d'investissements publics, pas forcément très productifs.
Ouais. Il s'agit d'un bon chiffre, sauf que quand on le décortique, on voit qu'il a été porté par une croissance assez soutenue au moment du nouvel an chinois, qui visuellement à cheval entre janvier et février, et qu'après, effectivement, sur la fin du trimestre, ça se ralentit un petit peu. Bon, on est obligé de parler de la décision de Fitch la semaine dernière de baisser, de dégrader la note de la Chine. Ça, côté politique chinois, on n'a pas trop aimé. Comment on lit ce chiffre comment on lit cette dégradation quand on est investisseur, particulier ?
Si on voit Fitch, y a un problème dans le modèle chinois, hein, c'est clair. Je veux dire, le modèle chinois est cassé économiquement, cassé démographiquement, probablement aussi politiquement, puisque on a quand même eu des soucis sur certains secteurs en bourse. Et donc, effectivement, Fitch reflète ça dans la dégradation, puisque vous avez une Chine un peu à deux vitesses, avec des provinces qui continuent à se porter assez bien en Shanghai, sur la bande côtière, et tout l'intérieur de la Chine qui s'ouvre de plus en plus, avec un intérieur du pays qui se vide progressivement, des dettes qui s'accumulent. Et c'est ça que reflète Fitch.
L'agence Fitch qui a abaissé à négative la perspective de crédit de Chine. Vous le dites, un des sous-jacents de l'économie chinoise, c'est l'immobilier. L'immobilier qui inquiète parce que régulièrement traité à la une des médias économiques, on a beaucoup parlé d'Evergrande. Qu'est-ce qu'il faut retenir là, mi-avril, de la situation de l'immobilier en Chine ?
La situation, je veux dire, elle est la bulle a enfin explosé et je dirais qu'elle n'est pas bonne. Et elle est en plus aggravée par le fait d'une chose qui commence à arriver malgré les statistiques, c'est que les perspectives démographiques chinoises sont très mauvaises. En 2023, pour la première fois, avec 5-6 ans d'avance, l'Inde a dépassé la Chine. On a peut-être perdu la population en 2023-2024. Donc aujourd'hui, je crois qu'un officiel ou officieux chinois disait qu'ils avaient construit plus de maisons que de Chinois que de nécessaire. Donc, quelque part, la bulle immobilière qui a été un peu la sauce secrète de la croissance chinoise pendant les 10 dernières années, est derrière nous et va pas revenir. Alors on peut avoir toujours des choses du côté de Shanghai et tout ça où les gens s'accumulent, mais en tout cas à l'échelle du pays, c'est quelque chose qui est derrière nous et qui ne va pas redémarrer.
On a construit plus de maisons qu'il n'y a de Chinois.
Ou qu'il y aura Chinois. La population chinoise, ça perdra 100 millions d'habitants d'ici 2050 normalement.
Bon, le mot l'immobilier, il y a aussi évidemment le chômage des jeunes qui pèse. Finalement, quand on voit, quand on parle de la Chine, on a l'impression que le monde politique a envie de régler les problèmes économiques, mais avec des mesures politiques. Et on le voit bien que ça marche moyennement.
Oui. Enfin, je dirais que surtout avec des mesures à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ne pas changer le modèle. Qui aujourd'hui touche finit dans un mur. Je veux dire, si je dis tout à l'heure, la Chine, c'est 20% du PNB mondial, c'est 32% de la production industrielle et 13% de la consommation. Il y a vraiment un écart entre ce qu'ils produisent et ce qu'ils consomment, ce qui est le nœud du problème. Et aujourd'hui, la direction chinoise ne veut pas essayer de corriger ça en augmentant la consommation des ménages, mais veut juste simplement changer d'endroit où ils investissent. Avant, c'était donc l'immobilier, après maintenant, c'est le public. Et là, ils veulent continuer à croître leur présence industrielle, ce qui ne sera pas possible, puisque les autres pays vont pas laisser faire.
Le problème de la Chine, c'est que les gens économisent trop. Ils économisent trop. L'immobilier cristallise un peu cette volonté d'économie. Finalement, on préfère investir sur quelque chose qui va rester plutôt que dans de la consommation. Ce qui manque à la Chine, c'est pas finalement un filet de sécurité sociale.
Si, mais pour citer les révolutionnaires américains, no taxation without public representation. C'est-à-dire que augmenter le filet social, c'est aussi augmenter les impôts, c'est aussi prendre le risque de la démocratisation de la Chinoise. Et c'est ça qu'essaie d'éviter Xi Jinping. Et c'est là où le modèle, effectivement, est aussi cassé politiquement. C'est que quand on voit que la partie peut anéantir des secteurs entiers en bourse, comme l'éducation, techno, pour des raisons politiques, enfin voilà, on est un peu coincé là-dessus. Donc, c'est ça aussi la clé. Mais effectivement, la Chine pourrait s'en sortir en accroissant les filets de sécurité et en augmentant la consommation des ménages. Parce que c'est pas un choix des ménages. Hein. Les ménages sont contraints. Et tout le modèle chinois, c'était de contraindre les ménages pour investir et exporter. Et c'est là où on arrive à la fin de ce modèle.
La difficulté de mettre en place un modèle de consommation dirigé par le consommateur, pour le dire en mauvais franglais, ça nous amène à un parallèle avec le Japon. On lit ça et là des analyses qui disent que la Chine serait en train de se japoniser. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de perspective historique quand on dit japonisation ? C'est une comparaison avec le Japon des années 90.
Oui, avec un sommet de boursier qui a été battu ce trimestre, hein, avec pas le même monnaie, mais qui a mis quasiment 40 ans à être battu. Oui, c'est un modèle d'exportation, donc de contraindre la consommation intérieure, qui après permet de développer les exportations, mais qui se heurte à un moment à une nécessité de rééquilibrer. Donc les Japonais en 90 avaient des accords du Plaza et du Louvre, on avait forcé à monter le yen, et donc on avait effectivement stimulé la consommation intérieure japonaise, qui avait fini dans une bulle immobilière énorme. Et derrière, on a une longue période d'hiver japonais. Sachant deux choses, c'est que il y a aussi un problème démographique, hein. Il y a un parallèle démographique, puisque le Japon a vu sa population commencer à diminuer depuis les années 2000-2010. La seule différence, je dirais, aujourd'hui, et qui rend la Chine un peu plus dangereuse là-dessus, c'est que le Parti libéral-démocrate, qui était au pouvoir au Japon dans la période, c'était pas un paragon de démocratie, mais il respectait les élections. Et donc, il n'y a pas cette capacité, au nom de la sécurité nationale, à anéantir, comme je disais tout à l'heure, des secteurs entiers en bourse. Donc, je dirais, la japonisation chinoise est quelque part un peu plus dangereuse de ce point de vue-là, puisqu'il y a en plus un risque politique qu'il n'y avait pas vraiment au Japon.
La différence aussi, elle se voit au niveau du potentiel d'urbanisation et de développement, parce que la Chine des années 2020 est quand même moins développée, enfin bien moins développée que le Japon des années 90.
Alors,
il y en a plus sous la pédale en Chine, je veux dire, en termes de développement, peut-être.
Quand on va à Shanghai, alors j'ai pas eu l'occasion d'y aller dernièrement, mais quand on va à Shanghai ou Canton, ce qu'on peut voir, c'est que les voitures électriques, enfin, on a quand même sur les métropoles, je dirais, de la côte, un niveau de richesse, on est à peu près à $25,000 par habitant, hein, sur cet endroit-là, qui est le seuil de démocratisation. Je veux dire, on est sur des niveaux de richesse qui sont.
Mais tout le reste du territoire.
Tout le reste
du
territoire.
Les villes tiers 3, tiers 4.
Voilà, est abandonné. Et aujourd'hui, ce que vous parlez de Fitch, c'est ce qu'on fait de Fitch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dichotomie de plus en plus grande entre une bande côtière qui a des niveaux de $25,000 de PNB par habitant, un pays qui a 12 000 et donc le reste qui est autour de 8-10 000.
Il y a aussi le sujet une japonisation de la Chine. Si elle s'avérait, si elle se réalisait, quelles seraient les conséquences pour nous
côté européen, vous observez, peut-être dans votre clientèle très simplement, un intérêt pour la Chine en ce moment? On dit que c'est pas cher d'acheter la Chine.
Alors, je veux dire, c'est un peu l'inverse. Nous on avait une vision négative du marché chinois, hein, très, très clairement, jusqu'à il y a un mois à peu près, puisqu'il y a un mois, on était revenu 15 ans en arrière, ce qui montre d'ailleurs qu'on parle de PNB, de croissance, mais on
voit que... Oui, puisque le MSCI China est à ces niveaux d'il y a 15 ans.
Donc, voilà, donc on voit bien qu'il y a un décalage entre la croissance économique, on parle de le PNB, et parce que le PNB chinois est quand même beaucoup plus élevé qu'il y a 15 ans, et la valeur boursière. Donc nous, on était pour négatif pour toute cette vision d'un modèle de cassé et d'un risque politique. En revanche, quand on revient 15 ans en arrière, on peut estimer qu'on a touché un peu, si vous me permettez l'expression, le fond de la piscine. Mmh. Et donc nous, on a investi un peu à contre-courant, donc on a acheté des actions chinoises il y a un mois. On est légèrement gagnant, je trouve ça un peu poussif, on se pose la question de savoir si on va conserver la position. Par contre, je rencontre pas mal de gens, effectivement, qui post-Covid avaient acheté la Chine en espérant un rebond, qui a eu lieu au début, mais qui s'est vite effacé, qui maintenant donc sont au plus bas. Donc, et si on fait un parallèle avec le Japon...
Justement, est-ce que le marché action chinois est comparable au marché action japonais?
Pour nous, il est un peu comparable, on a les mêmes dynamiques, les mêmes problématiques. Le Nikkei a perdu... trois quarts de sa valeur entre 89 et 90, et après a eu des rebonds de 30%. Et quelque part, c'est ce qu'on peut jouer techniquement. C'est un rebond. Si on gagne 10-20% sur la Chine, on sera très content, mais on ne restera pas à moyen terme, on ne restera pas sur le marché à long terme.
Donc votre recommandation chez Elkano, c'est la Chine, mais à court terme.
À court terme, si on a acheté donc il y a un mois, après, si ça rebondit un peu, oui, plutôt de sortir du marché, oui. Clairement, on est sur un marché qui a des problèmes structurels dont on ne voit pas la résolution à court terme. Et après, on voit la devise qui commence à lâcher un peu. Bon, il est possible que... De toute façon, la volonté de faire du tout export sur les voitures électriques, tout ça, va se heurter aux résistances mondiales. Donc, ça va être un modèle qui va, à un moment, tourner à vide.
Et oui, parce qu'une des solutions pour la Chine, ce serait d'exporter plus. Mais exporter quoi et à qui?
Voilà, surtout à qui? Quoi, ils savent, hein, c'est les voitures électriques, c'est les panneaux solaires, tout ça, ils ont listé. Mais c'est surtout à qui? Parce que les gens sont pas... Même le Brésil fait du anti-dumping, la Turquie, enfin, les Américains. Les deux candidats ont annoncé qu'ils voulaient interdire américains les voitures japonaises, chinoises, au moins 10 000 dollars électriques. Enfin, voilà, et même l'Europe s'y met aujourd'hui sur les panneaux solaires. Donc, clairement, il y a ce modèle... a du mal à trouver un débouché.
Voilà, ce décryptage qu'on pouvait faire de la Chine avec vous, Gilles Etcheberry-Garay, de l'équipe Elkano AM. Et puis peut-être un chiffre pour finir, hein, la Apple qui assemble aujourd'hui un iPhone sur 7 en Inde. Un iPhone sur 7 qui
est l'Inde est en train de monter, hein, clairement. Alors, nous, on a fait un trade qui était un peu opposé parce que l'Inde était devenue assez chère et la Chine pas chère. Mais globalement, à moyen terme, oui, aujourd'hui, l'Inde, c'est 17% des marchés émergents de MSCI Emerging. On a plutôt une tendance à voir, je rappellerai que le Japon représentait 50% du MSCI World en 1989. On voit plutôt la part de la Chine régresser à moyen terme et la part de l'Inde augmenter à moyen terme. Et d'autres marchés.
Voilà ce qu'on pouvait dire mi-avril. Vous reviendrez nous voir, Gilles. On continuera à filer ces parallèles, à décrypter l'Asie et les différents pays du monde qui ont un impact ultimement sur nous, investisseurs particuliers, ici, en France. Merci à toute l'équipe d'Elkano Asset Management.
Plaisir.
Cette séquence est retrouvée en podcast et en replay si vous l'avez attrapé en cours de route. La comparaison avec le Japon des années 90 et puis les conséquences de la dégradation de la note de crédit par Fitch la semaine dernière. Et puis bien sûr ce PIB chinois, que signifie-t-il? Pour rester avec nous, on va tout à fait changer de sujet pour finir l'émission. Quoique, on va continuer à parler investissement, on va parler voiture. Et pas de Tesla. On va parler de deux chevaux. On va parler de Mini. Et puis on va parler aussi de Porsche. Avec la maison Aiguit. A tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Il vient de jeter un prototype sur le bureau du studio de BFM Business. C'est Gauthier Rossignol. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes associé directeur automobile de collection chez Aiguit. Oui, vous venez presque de jeter un magnifique objet que vous allez nous décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio et la télé.
Pas du tout pourquoi vous dites ça, mais
de manière très spontanée, vous êtes venu avec un prototype. Je pense que c'est la première fois que je vois un prototype, donc je suis un petit peu sans voix. Décrivez-nous.
En fait, c'est le prototype de la maquette de la Porsche 904. Donc, on va dire que c'est le premier prototype. On va dire aussi que c'est la première grande GT chez Porsche. Ensuite, c'est la série des 900. Donc, c'est les caisses en fibre. Et en fait, dans les années 60, il n'y avait pas de soufflerie comme aujourd'hui. Il y en a chez Tesla, il y en a chez Stellantis, il y en a partout. Mais à l'époque, dans les années 60, en fait, on faisait des maquettes. Il y avait des ingénieurs qui faisaient ça, qui réalisaient la carrosserie au plus proche de ce qu'allait être la vraie voiture. Et comme ça, ils arrivaient à voir si déjà les lignes plaisaient, si c'était concordant avec l'idée qu'en avaient les ingénieurs. Et puis ensuite, il en sait en production. Donc, il y en a une petite dizaine de réalisés. Beaucoup sont partis à la casse. Beaucoup sont rejetés chez Porsche. Et puis, il y en a une ou deux qui sont arrivés dans des mains privées, certainement chez des très grands collectionneurs. En tout cas, pour celle-ci, c'est le cas. Et on la présentera aux enchères le 22 avril prochain, au départ du Tour Auto.
Voilà, une maquette de la Porsche 904. Parce que avec vous, nous parlons de voitures, évidemment. On va évoquer quelques modèles iconiques. Vous préparez une vente chez Agut, dans laquelle on pourra retrouver quelques-uns des modèles dont on va parler. D'abord, là, une maquette comme ça, à quelle échelle est cette maquette ?
On est sur du 1/8, 1/5, 1/8.
Qui va être intéressé par ce genre d'objet issu des usines issu des ateliers de design, issu de chez Porsche, les fous, les dingues de Porsche ?
Les fous, les dingues de Porsche, les collectionneurs, plus ou moins avertis, parce que certains diront que c'est un très bel objet, d'autres diront que c'est un objet extrêmement rare. Ceux qui s'y intéresseront et qui seront capables de monter très haut dans les prix sont, à mon avis, des collectionneurs avisés, certainement des propriétaires de Porsche 904. Il faut savoir qu'une Porsche 904, aujourd'hui, on est entre 1,7 million et 3 millions en fonction du palmarès. Le palmarès, c'est les courses auxquelles elles ont participé. Et il faut savoir que ce marché, il est extrêmement dynamique. Donc, quand on est propriétaire d'une voiture qui vaut 2,5 millions, en fait, s'acheter une maquette dont l'estimation est entre 6 et 8 000 euros...
C'est un accessoire.
L'acheter 15 000, 20 000, 30 000, en réalité, il n'y a pas réellement de prix. Il y a plus la volonté de l'avoir. Et donc, du coup, on s'arme pour pouvoir l'acquérir.
On parle de palmarès parce que nous parlons de course auto avec vous, Gauthier Rossignol. Vous pourrez parler de Porsche 911, de Porsche 997, là, de Porsche 904. Mais on peut aussi parler de Mini ou de deux chevaux. Racontez-nous la place de ces modèles beaucoup plus populaires dans l'univers de la course.
Alors, chez Agut, on a la volonté de défendre toutes les voitures parce qu'on aime vraiment ça. On est passionné et en faisant notre métier, on se doit de défendre l'intérêt de nos clients, nos vendeurs. Et en fait, une voiture de collection, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut l'acquérir de 1000 euros à plusieurs dizaines de millions d'euros, pour parfois centaines, pour les derniers records. Un objet, qu'il soit populaire ou exceptionnel, a toujours un prix. La seule chose, c'est que 24 km, vous l'avez cité, 24 km sur une voiture de course, bon, ça n'existe quasiment pas, mais sur une voiture populaire, c'est impossible. La Mini,
24
en l'occurrence,
km au compteur,
ça veut dire que la voiture n'a jamais roulé.
Ouais.
Voilà, on a vendu en effet une deux chevaux tout à l'heure, vous m'avez présenté comme ça, 142 000 euros au départ du Tour Auto en 2021. La voiture est estimée entre 50 et 70 000 euros, 142 000 euros en résultat final. Le monde entier se l'est arraché, on avait plus de 10 personnes dessus.
Elle est quasiment neuve, on peut
elle
dire.
Elle était
ça.
Neuve, elle n'avait jamais roulé, elle n'avait même jamais été immatriculée. Là, en l'occurrence, c'était exceptionnel parce qu'un objet populaire comme une deux chevaux, bon, c'est la deuxième voiture du foyer, c'est censé rouler, faire 50 000, 100 000, et peu importe, entre guillemets. Elle est là pour rendre service. La Mini, c'est pareil, c'était souvent la voiture bourgeoise, la deuxième voiture des familles bourgeoises, dans le 16e, dans le 8e, un peu partout dans les grandes villes.
C'est toujours le cas avec les Mini Cooper.
C'est toujours le cas avec les Mini modernes du groupe BMW. Là, en l'occurrence, cette voiture qui était dédiée à être la seconde voiture du foyer n'a fait que 24 km, les 9 km qui la séparaient de la concession et ensuite les 15 km que faisait la voiture pour s'assurer qu'elle soit apte à être immatriculée pour son premier propriétaire. Donc en réalité, ces 24 km font de cette voiture une voiture quasi inestimable en prix parce que oui, il y a une cote, mais il y a une cote pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Mais une voiture de 24 km, ce n'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde.
Si on touche un mot des deux chevaux et de celle que vous allez avoir en vente au moment du Tour Auto à Gut, on peut parler d'excellence française, parce que là, deux chevaux, c'était une voiture française.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on a appelé cette collection The Crunch. Le Crunch, c'est France-Angleterre au rugby.
Elle est aussi dans la voiture, entre la deux chevaux et la Mini.
Deuxième passion après les autos. Mais c'est l'icône de l'Angleterre, créée par Alec Kissigonis en 1959, et l'icône française, créée par André Citroën, est présentée à l'aube des années 50. Donc, c'est un match franco-anglais, et certainement avec les deux plus grandes icônes, populaires bien sûr, mais qui sont passées dans un deuxième temps au rang de voitures un peu désuètes, et puis au gré des modes, qui sont devenues vraiment les fers de lance de certains constructeurs. Citroën n'a toujours pas sorti de deux chevaux, je ne suis pas très inquiet sur le fait que ça sorte sur nos tablettes dans pas longtemps.
Justement, sur les gens qui vont acquérir aux enchères des voitures comme des Mini ou des 2 chevaux des années 50, des années 60, est-ce que vous observez une partie de ces propriétaires qui vont les rétrofiter, qui justement, pour pouvoir s'en servir, toujours peut-être comme la deuxième voiture du foyer, sans problème, qui vont la rétrofiter, c'est-à-dire mettre un moteur électrique à la place d'un moteur thermique pour être plus tranquille?
Le rétrofit et l'univers de la collection sont deux choses qui n'ont pas vraiment qui partagent pas vraiment de
et qui ne se rencontrent pas sur ce genre de modèle, parce qu'enlever le moteur, ce serait enlever une partie.
Si vous voulez qu'on parle d'investissement, le rétrofit, c'est de l'amusement, c'est très bien, il faut en parler, c'est très bien pour demain. Il y a des sociétés merveilleuses qui font ça très bien, je pense au Mercury Club Cassis. La seule chose, c'est que si on parle d'investissement pour la collection, on va chercher l'authenticité, l'originalité. Vous transformez une voiture, ce n'est plus un objet de collection à proprement parler, selon la loi. Un objet de collection, déjà, c'est un objet qui a plus de 30 ans, qui n'a jamais été modifié. Et en l'occurrence, on le voit, pour les meilleurs investissements, ce sont, on va parler vulgairement de produits, les produits qui sont restés intouchés, toujours préservés.
Original.
Le plus original possible, exactement.
Combien de voitures dans cette vente et à combien de véhicules on peut estimer ce marché de la collection, par exemple pour les 2 chevaux? Est-ce qu'on a une idée du nombre de 2 chevaux qui est en vente et quel est le pourcentage qui passe chez vous?
La 2 chevaux, c'est plus de 5 millions d'exemplaires. Les voitures qui passent aux enchères, je veux dire qu'il y en a une centaine par an. Des 2 chevaux plus exceptionnels, il y en a 5 et puis il y en a une tous les 4 ans. En l'occurrence, la dernière, c'était 2021. Si on veut parler de collection à proprement parler, le marché de l'automobile de collection, c'est 476% d'augmentation entre 2008 et 2015. Plus de 300% entre 2012 et 2015. On a vu un tassement à partir de 2016, parce que les prix se sont envolés jusqu'en 2015. Et puis le Covid, contre toute attente, a vraiment redynamisé le marché. La seule chose, c'est qu'il l'a redynamisé sur un marché beaucoup plus pointu et beaucoup plus jeune. Le marché générationnel, au gré des modes. Aujourd'hui, les plus gros collectionneurs n'ont plus 70 et 80. Ils ont plutôt entre 40 et 60 ans. Et ils collectionnent la voiture qu'ils avaient en poster dans leur chambre. Mais il y a aussi un marché de niche. Les voitures populaires sont un marché de niche. Mais les voitures de course en sont un autre, et avec des valeurs nettement plus importantes. On sait que des 250 GTO valent 70 millions d'euros, entre 50 et 70 millions d'euros. Une 904, ça valait 1 million d'euros il y a 15 ans. On est quasiment au triple aujourd'hui. Voilà.
Voilà les métriques, les chiffres pour illustrer ce marché de l'automobile. Vous préparez avec toute l'équipe Agut le tour auto. Vous viendrez nous en parler a posteriori, peut-être les enchères les plus folles que vous aurez vu passer. Merci d'être venu avec ce magnifique prototype de la Porsche 904 GT.
C'est ça, GTS.
GTS, à retrouver en vidéo et en podcast cette séquence avec Gauthier Rossignol, directeur automobile de collection chez Agut. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'émission, d'avoir été connectés. Eric nous demande de dire à Jean-Marc que la semaine prochaine, ça serait bien qu'il nous explique les origines de travailler au noir. Travailler au noir. Voilà, on va travailler Jean-Marc là-dessus. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de panique, vous pouvez la retrouver en podcast et en replay d'ici quelques minutes. Demain, nous serons là dès 10h. On a prévu de parler de la renaissance des fonds euros. Et puis aussi, on fera un abécédaire du franglais. Un abécédaire du franglais, parler dans l'univers du non-coté. Sandra Gondouin nous a rejoint. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine.
Avec vous, c'est dans quelques minutes. Quel est le programme de l'émission?
On va parler de maîtrise du français en entreprise. On va parler de est-ce qu'il faut licencier ou geler les embauches en cas de ralentissement de l'activité. Comment adopter aussi les nouvelles technologies en entreprise. Et est-ce que vous lisez aussi votre bulletin de paye tous les mois ou est-ce que vous passez votre tour?
Ah, j'attends qu'il ait moins de 30 lignes.
Voilà pour les questions qu'on va traiter. Et puis toutes celles évidemment que vous allez nous poser à cette adresse avec vous. BFMBusiness.fr.
C'est à partir de midi et à 15h. Amaury prend les manettes de BFM Crypto, le club. Quel est le programme, cher Amaury?
Rebonjour. On reparlera quand même de ce qui s'est passé ce week-end. Notamment, on se concentrera sur le marché des altcoins, hein, toutes les autres cryptos qui ont beaucoup chuté. On se demandera pourquoi. Et puis, on va peut-être réconcilier Jean-Marc Daniel avec les crypto-monnaies. On parlera du vin de Bordeaux, voilà, qu'on peut acheter du vin de Bordeaux en primeur via la blockchain. Donc, ça se passe tout à l'heure à 15h, ici même.
Voilà, BFM Crypto, le club, tous les jours à 15h, 21h30 et puis à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast. On se quitte avec le Bitcoin qui se traite autour de 63 299 dollars. Il est 11h57 sur BFM Business. À demain.
Tout
Tout pour investir sur BFM Business.